Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, cette réforme qui nous concerne et qui vous concerne, auditeurs de France Inter, l'audiovisuel public, radio et télé regroupés dans une seule et même société, ses patrons nommés par des conseils d'administration. Le ministre de la Culture veut une BBC à la française. Explication dans un instant. Donald Trump destitution, les démocrates aux États-Unis lancent la procédure. C'est la dernière affaire ukrainienne qui les a décidés. De quoi empoisonner la campagne pour les présidentielles de 2020. Nous serons à Washington. Les gagnants et les perdants du budget en France. Fini les cadeaux fiscaux pour tous ceux qui posent du double vitrage ou changent leur chaudière. À la place, une prime plutôt destinée aux ménages modestes. Et question budget, votre invité Nicolas est au cœur de la machine.
Oui, il s'agit du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Au micro d'Inter dans 20 minutes, appelez-nous toutes vos questions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Dans ce journal aussi, premier débat sur la bioéthique et son nouveau projet de loi à l'Assemblée. Pas de consigne de vote dans les partis. Certains sont donc à contre-courant dans leur camp. On les entend déjà. Une crèche en prison. Nous serons à Fleury-Mérogis. Et puis un western politique brésilien au cinéma ce mercredi.
France Inter.
C'était il y a presque 45 ans la disparition de l'ORTF qui regroupait les radios et la télé publique. Les voici de nouveau appelés à convoler. C'est la réforme de l'audiovisuel, en partie dévoilée par le ministre de la Culture Franck Riester dans les colonnes du Figaro. Il annonce la création d'une holding France Média qui regroupera Radio France, France Télé, RFI, France 24 et l'INA à partir du 1er janvier 2021. Bonjour Alexandra Hacoun.
Bonjour Florence.
Première question, quel est le but de la manœuvre? Est-ce que ça va changer quelque chose pour les antennes?
Alors absolument rien. Les différentes antennes gardent leur individualité, leurs différences majeures, y compris France Info. L'idée, c'est avant tout de créer un audiovisuel public puissant et ambitieux, capable d'affronter une concurrence de plus en plus féroce. La holding, au rôle stratégique d'impulsion et de coordination, détiendra 100% du capital des sociétés, mais elle n'aura aucun rôle éditorial, promet Franck Riester. Côté finance, pas de rallonge pour mettre en place France Média. Les budgets des différentes entreprises, eux, sont sanctuarisées jusqu'en 2022. Après cette date, un seul budget sera octroyé à France Média et c'est son président qui se chargera de la répartition. Franck Riester avance également quelques pistes concernant les services qui pourraient être regroupés. Il faut faire des économies. Il cite la formation, l'informatique, l'immobilier et les régies publicitaires.
Et ce qui va changer très nettement avec cette réforme, Alexandra, c'est le mode de désignation des patrons de l'audiovisuel public.
Alors on commence par celui ou celle qui dirigera France Média. Un président exécutif sera désigné par un conseil d'administration composé de 12 membres. L'État y sera minoritaire. Cette nomination devra être validée par le CSA et les commissions culture du Parlement, le tout garantissant, selon le ministre, un président compétent et indépendant. Sous cette société mère, changement aussi pour la gouvernance des quatre filles. Leurs présidents ou présidentes actuelles seront transformés en directeurs ou directrices générales à partir de 2023. Des directeurs désignés là aussi par leur propre conseil d'administration.
Alexandra Hacoun, merci. J'ajoute que la redevance audiovisuelle va baisser d'un euro l'an prochain, que son montant sera ensuite ajusté chaque année pour se transformer à partir de 2022 au moment de la disparition de la taxe d'habitation.
Il est 8h04, une procédure de destitution contre Donald Trump.
Les démocrates en rêvaient depuis longtemps aux États-Unis. Ils avaient hésité à le faire au sujet des possibles collusions entre le président et la Russie. Cette fois, ils y vont. C'est Nancy Pelosi, emblématique présidente de la Chambre des représentants, qui a lancé la charge cette nuit sur la foi d'une conversation que Trump a eue avec le président ukrainien au mois de juillet. Il lui aurait demandé d'enquêter sur son rival démocrate, Joe Biden, dont le fils a travaillé pour un groupe gazier local, en mettant dans la balance une aide militaire américaine. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Florence.
Correspondant de France Inter à Washington. Grégory, pourquoi lancer l'impeachment maintenant? Pourquoi l'affaire ukrainienne et pas l'affaire russe?
Alors, il y a au moins trois raisons. D'abord, Nancy Pelosi a expliqué hier après-midi que ce cas, cette histoire de coup de téléphone passé à un dirigeant étranger, ukrainien en l'occurrence, en vue de salir un adversaire politique, était plus simple à expliquer au grand public américain, plus simple que par exemple la filandreuse enquête russe qui a duré presque 2 ans. Deuxième raison, il y a donc eu ces révélations émanant d'un lanceur d'alerte, un membre des services de renseignement américain, qui au cœur de l'été a saisi son inspection générale sur une possible atteinte à la sûreté de l'État de la part du président Trump qui, lors de ce coup de téléphone à son homologue ukrainien Zelensky, fin juillet, aurait donc fait pression sur lui en vue d'obtenir des renseignements compromettants sur Joe Biden. Enfin, troisième raison, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, subit depuis des semaines maintenant la pression de l'aile gauche du Parti démocrate afin qu'elle entame une telle procédure. Aujourd'hui, environ 160 représentants démocrates sur les 235 qui siègent à la Chambre se disent prêts à voter l'ouverture d'une enquête en destitution. Donc Pelosi est un peu obligée de les écouter.
Et au final, Grégory, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les démocrates de se lancer dans cette aventure en sachant qu'elle n'a quasiment aucune chance d'aboutir ?
Alors, vous savez, Nancy Pelosi connaît la politique américaine mieux que quiconque et elle sait évidemment que lancer une procédure de destitution est une arme à double tranchant. La démarche peut se retourner contre les démocrates et mobiliser l'électorat républicain. Dès hier soir, Donald Trump d'ailleurs estimait que tout ceci au final lui profiterait, dénonçant une chasse aux sorcières digne du caniveau. Et puis aussi, Nancy Pelosi est bien consciente de deux choses. D'abord, cette procédure va polluer, empoisonner la campagne électorale pour 2020. Et puis deux, évidemment, la démarche n'ira pas jusqu'à son terme car c'est le Sénat qui vote la destitution et il est pour l'instant largement dominé par le camp républicain.
Grégory Phillips, merci. En direct de Washington, Donald Trump profitera-t-il de ce moment critique pour faire un pas en direction de l'Iran ? Emmanuel Macron y a consacré sa soirée hier en marge du sommet de l'ONU à New York, encourageant l'Américain et le président iranien à se rencontrer dans un dernier appel avant de rentrer en France. Et puis que va-t-il se passer à Westminster aujourd'hui ? Rentrée des députés à Londres après l'arrêt de la Cour suprême hier qui a donné tort à Boris Johnson sur la suspension du Parlement. Le Premier ministre réclame donc de nouveau des élections quand son principal opposant travailliste, Jeremy Corbyn, demande sa démission.
Il est 8h07, article 1er du projet de loi bioéthique, étendre la PMA à toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple.
Et c'est aujourd'hui que les députés commenceront à en débattre sur le fond après de longues heures passées à la discussion générale par laquelle commence chaque texte examiné à l'Assemblée. La séance s'est terminée tard dans la nuit. Elle donne le ton plutôt serein malgré quelques échappées verbales et des élus qui jouent parfois les contre-emplois dans leur camp, Lisa Guyenne.
Parmi les discours des parlementaires qui se succèdent dans la soirée, celui d'un jeune député Les Républicains sort du lot. Maxime Minot, à contre-courant de sa famille politique, s'affiche très favorable au projet de loi.
N'en déplaise aux défenseurs de l'équation un enfant égale un papa plus une maman, il se trouve que la famille n'est plus une institution sociale patriarcale. En soutenant ce projet de loi, je me suis sentie, je dois vous l'avouer, pointée du doigt, parfois même marginalisée. Mais je me refuserai toujours de bafouer mes convictions pour plaire à un camp ou pour séduire un électorat.
Remarqué aussi par l'Assemblée, mais dans un autre registre, Agnès Thil, députée exclue de La République En Marche pour ses propos sur la PMA, propos qu'elle a renouvelés hier.
La liberté si fièrement revendiquée n'est qu'une liberté de consommateur. Des Français accèdent au hard discount reproductif qu'il faudra reconnaître en France.
Une envolée lyrique qui ne traduit pas pour autant l'ambiance générale dans l'Assemblée. La majorité des députés souhaitent un débat digne et apaisé, à l'image des discussions qui ont animé la commission spéciale. Sa présidente, Agnès Firmin-Le Bodo.
Pour que cette démarche soit fructueuse, elle nécessite des débats, certes, de l'apaisement, à n'en pas douter, et beaucoup de respect. C'est cet esprit qui a présidé aux 110 heures de travaux de la commission spéciale que j'ai eu l'honneur de mener. Je gage que cet esprit régnera également sur nos débats en hémicycle.
Reste à voir si ces bonnes intentions se confirment à mesure que l'hémicycle se remplit. Hier, à peine un quart des sièges étaient occupés.
Et récit complet de cette première nuit de discussion sur franceinter.fr. 1 milliard d'euros d'impôts en moins pour les entreprises, cadeau du budget 2020 selon les Échos, notamment grâce à la baisse de l'impôt sur les sociétés. Le gouvernement s'enorgueillit d'avoir fait baisser la pression fiscale sur les entreprises de 10 milliards d'euros depuis le début du quinquennat. Et dans ce budget pour l'an prochain, voilà qui concerne tout le monde, ou presque, puisqu'on parle de logement et d'isolation énergétique. Le crédit d'impôt va disparaître au profit d'une prime conditionnée au revenu des ménages. Explication signée Delphine Simon.
Cette prime unique, on va la toucher en une seule fois dès la fin des travaux via une plateforme en ligne. Techniquement, les aides simples de l'Agence nationale de l'habitat et le crédit d'impôt vont fusionner l'an prochain et la nouvelle prime sera d'autant plus élevée que le foyer a des revenus modestes. Ainsi, une chaudière gaz haute performance sera remboursée 1200 euros à un célibataire qui gagne moins de 15 000 euros par an. S'il gagne plus, la prime sera moindre, 800 euros. Et cette prime sera d'autant plus plus élevés que les gestes financés sont jugés efficaces pour l'environnement. Les fenêtres double vitrage dont l'efficacité fait débat seront remboursées, mais seulement 100 euros maximum. Au total, les aides publiques allouées à la rénovation énergétique devraient rester à peu près stables l'an prochain, autour de 800 millions d'euros. Mais le recentrage sur les plus modestes fait grincer des dents. Associations de l'environnement et professionnels du bâtiment y voient un frein à la demande. Conscient du problème, le gouvernement renvoie la balle aux parlementaires.
Delphine Simon, d'écart à 1 euro dans tous les Hauts-de-France et quelles que soient les distances, c'est la région de Xavier Bertrand qui l'annonce au nom de la mobilité et du pouvoir d'achat. Entrée en vigueur progressive à partir du mois de janvier dans l'Aisne et la Somme. Pendant qu'en Ile-de-France, votre smartphone va pouvoir vous servir de passe Navigo à partir d'aujourd'hui. Mais seulement si vous êtes sous Android, Apple n'a pas donné suite à la demande de la région.
Il est 8h11, des questions de procédure au procès du Mediator aujourd'hui.
3 QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité déposées. Si l'une d'elles est jugée sérieuse, cela pourrait entraîner un report de ce procès fleuve qui s'est ouvert lundi. À la manœuvre, les avocats des laboratoires Servier. Le premier d'entre eux s'appelle Hervé Temim, spécialiste des défis judiciaires. Corinne Audouin.
Il est l'une des stars du barreau, numéro 5 du dernier classement des avocats les plus puissants de France, publié par le magazine GQ. Hervé Temim n'aime rien tant que défendre les cas difficiles, Roman Polanski, Bernard Tapie et les laboratoires Servier. Tout a commencé de façon singulière dans cette affaire, bien avant le scandale du Mediator. En 2005, Hervé Temim défend la fille de Jacques Servier, accusée d'avoir tué son mari. Il lui évite des années de prison. L'histoire les soude à tout jamais. Depuis, le PDG du laboratoire est mort et c'est son associé François de Castro qui suit désormais l'affaire. Mais Hervé Temim garde la main. C'est lui qui plaidera en premier cet après-midi pour défendre 3 questions prioritaires de constitutionnalité. Ce sont des points capitaux, en aucun cas des manœuvres dilatoires, affirme-t-il. L'une est relative à la prescription du délit de tromperie. Au-delà de ces arguments techniques, la défense de Servier espère arriver à dédiaboliser l'image des laboratoires en assumant une responsabilité civile. Servier a déjà versé 130 millions d'euros à 3000 patients, mais pas de faute au sens pénal.
L'appel alarmiste des soignants de la maternité de l'hôpital Lariboisière à Paris. Ils sont une quarantaine à demander de l'aide, dénonçant un sous-effectif, des locaux vétustes, des personnels à bout de souffle, au bord du craquage complet. Si rien n'est fait, disent-ils, une catastrophe va arriver, comme aux urgences générales, où une patiente avait été retrouvée morte après 12 heures passées sur un brancard en décembre dernier. Comment élever des enfants en prison. C'est une première en France. Une crèche a vu le jour à la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis. Officiellement inaugurée hier, elle existe depuis plusieurs mois pour s'occuper de 10 bébés dans et hors les murs. C'est un sas, Rémi Brancato, pour les mères et pour les enfants.
Dans cette partie de la maison d'arrêt, 10 femmes vivent avec leur bébé. Le petit Elvin n'a que 2 semaines et sa mère, Cynthia, se sent parfois un peu seule dans sa cellule.
On n'a pas de visite, vu que c'est mon premier enfant, donc oui, j'avais besoin de petits conseils. Surtout pour l'allaitement, l'auxiliaire de la crèche, elle m'a aidée pour le positionnement et tout.
L'éducatrice et les 3 auxiliaires de puériculture comme Laura, qui l'aide, viennent travailler depuis 1 an dans cette micro-crèche unique en France.
Là, c'est l'espace biberonnerie.
Un local aux couleurs vives, des jeux, mais ici, les mamans sont un peu plus fusionnelles, plus angoissées aussi.
C'est un lieu en fait où leur inquiétude est très vite décuplée. Quand les mamans ont des angoisses et qu'elles ne peuvent pas en parler autour d'elles parce que elles sont enfermées, nous, on est là aussi pour répondre à leurs besoins et à leur inquiétude.
De 7h30 à 17h, la crèche est ouverte pour permettre aux mères de travailler, de préparer leur sortie avec leur conseiller d'insertion. Pour les enfants, c'est une ouverture sur l'extérieur, indispensable pour un bon développement, rappelle Anne, la responsable.
On a la possibilité de faire des sorties dans des parcs, dans les autres crèches de la commune, notamment pour rencontrer d'autres enfants. L'objectif, c'est de fonctionner comme une crèche sur l'extérieur.
Comme à l'extérieur, ou presque. En 1 an, la crèche a aussi vécu 2 séparations. Passé ses 18 mois, l'enfant ne peut plus rester en cellule avec sa mère.
Et pour voir à quoi ressemble cette crèche si particulière, rendez-vous sur franceinter.fr. Quelle performance, les volleyeurs français en demi-finale de l'Euro. Ils ont écrasé l'Italie 3-0 hier soir. Pour atteindre la finale, il leur faudra battre la Serbie vendredi soir à
Paris. Et enfin, allez-y.
On termine avec une fable politique, mais à la mode brésilienne.
Bacarao, je ne sais pas si mon accent est correct. Prix du jury au dernier festival de Cannes. C'est un film inter et on s'en félicite parce que c'est un très bon film, Eva Bétan.
L'indication dans un futur proche ne trompe guère. C'est du Brésil actuel dont il s'agit, sous l'habit de la fable, du quasi-western, avec un zeste d'absurde et pas mal d'humour. Un village, Bacarao, comme une utopie où, malgré la corruption des politiciens locaux, l'abandon de l'État, les habitants ont réussi à créer une société démocratique solidaire. Et voilà qu'un jour, ils découvrent que leur village ne figure plus sur les cartes et ils sont l'objet d'attaques arbitraires meurtrières. Le film a été tourné avant l'élection de Bolsonaro, mais d'une certaine manière, il l'annonce. Les deux cinéastes ont écrit le scénario sur 8 ans. À l'écoute de la société, ils ont senti monter des forces antidémocratiques. Aujourd'hui, par certains aspects, la réalité est en train de ressembler au cauchemar qu'ils ont imaginé. Un exemple donné par Kléber Mendonça Filho.
Au cours des 9 derniers mois, 16 enfants ont été tués par la police, soi-disant accidentellement. Cela tient à la politique extrêmement violente du gouverneur de Rio. Il pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser la violence, et tant pis pour les dommages collatéraux.
Tout dans ce film, son propos comme sa liberté de forme, sonne comme un acte de résistance.
Eva Bétan, merci. On signalera au cinéma aujourd'hui aussi Downton Abbey pour les fans de la douairière Maggie Smith et Rambo pour les fans de Stallone et d'Hémoglobine. Il paraît que c'est assez gore.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Marie-Pierre, enfin une bonne nouvelle, c'est le retour des pluies.
Et oui, et soulagement des agriculteurs, mais malgré l'arrosage, certaines terres ont encore soif. Contrairement au nord-ouest où la pluie a été généreuse, on peut espérer que le quart nord-est, sévèrement touché par la sécheresse, comblera une partie de son retard d'ici la fin de semaine. Donc aujourd'hui, une matinée qui commence bien dans la grisaille sur les 2/3 du pays, excepté des Pyrénées au sud-est où le soleil est dominant. Ailleurs, c'est au choix, pluie, nuages ou vent qui va souffler partout, jusqu'à 80 km/h près des côtes du Cotentin à la côte de Pâle. Et même dans le sud, la Tramontane et le Mistral vont se lever. Le réveil se fait en douceur grâce à l'air doux ramené par l'ancien cyclone Umberto qui nous apporte ses pluies. Aucune valeur donc ce matin, début de matinée, en dessous des 10 degrés.
Et cet après-midi, peu de changements.
Oui, on ressort les imperméables, les parapluies et autour de la Méditerranée, pas besoin de parapluie, juste un maillot de bain, une serviette où le temps restera estival sous un ciel peu voilé. On va retrouver des valeurs de saison, 17 à Charleville-Mézières et Brest, 18 à Metz et à Lille, 19 à Paris comme à Nantes, Dijon ou Bordeaux. Il fera 20 à Clermont-Ferrand. On passera les 20 dans le sud avec 22 à Lyon. On atteindra les 25 dans le Gard à Bagnols-sur-Cèze et le maximum pour Nice et Bastia avec 28 sur la plage.
Merci Marie-Pierre Planchon.